Christophe Cérès et Yann Nouvel, bonsoir. Donc nous nous revoyons pour une deuxième fois et toujours sur ces questions posées aux candidats, les 12 questions pour 2012 posées aux candidats pour les élections législatives. Ce sont des questions liées à l'écologie, je crois.
Oui, effectivement, ce sont des questions liées à l'environnement, mais ce sont des questions qui abordent plusieurs sujets, des sujets très divers, mais toujours le dénominateur commun, c'est l'environnement. Ces questions donc, vont toucher les questions de l'énergie, les questions agricoles, la question de l'eau, des énergies fossiles, des déchets, du gaz de schiste, bien évidemment, puisque c'est quand même une région touchée ici, du réchauffement climatique et d'autres questions également, puisqu'il y en a 12.
Et vous avez eu des réponses, donc ?
Donc, on a eu 20 réponses sur 30. Donc quand même pour une première initiative du groupe local des Amis de la Terre, je trouve que c'est quand même un bon score. Il y a de grands absents. Les grands absents au niveau de la Drôme sont le MoDem et le Front National. Et au niveau plus particulièrement de la troisième circonscription, puisque peut-être il serait intéressant de faire un petit point au niveau des différentes circonscriptions drômoises. Les auditeurs ne sont pas forcément au courant, je pense, que des limites des différentes circonscriptions. Donc, il y a 4 circonscriptions dans la Drôme. On a une première circonscription qui englobe grosso modo Valence. On a une deuxième circonscription, c'est le couloir rhodanien de Portes-les-Valences jusqu'au sud, aux limites sud donc de la Drôme, en passant par Montélimar notamment. La quatrième circonscription regroupe toutes les communes de la Drôme des Collines. Et la troisième circonscription, c'est-à-dire la nôtre, c'est strictement tout le reste, donc c'est-à-dire que c'est une circonscription très étendue, avec un périmètre très très étendu.
Il paraît même que c'est la plus grande circonscription de France.
C'est fort possible, on n'a pas vérifié, mais effectivement elle est très très grande.
Oui, en superficie.
En superficie.
Sûr. Oui. Et tu m'avais dit que tu avais envoyé les questionnaires principalement aux 8 plus grosses représentations politiques nationales.
Voilà, donc en fait, on est quand même assez limité au niveau des moyens humains et matériels. Donc on a été obligé de faire un choix et on a décidé de s'adresser aux représentants des 8 partis principaux au niveau national. Et malheureusement, d'exclure les candidats des autres organisations plus confidentielles, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a méprisés ou mis de côté volontairement, bien au contraire.
Oui, d'autant plus que Jean-François Jacquier, bon, qui est notre candidat dans la troisième circonscription du RIC, était certainement très engagé aussi au niveau
oui,
de l'écologie.
C'est bien dommage, en fait, c'était un crève-cœur. Il a fallu vraiment faire une distinction entre ceux qui ont vraiment une audience nationale et ceux qui n'ont malheureusement qu'une audience locale. Et donc, ce choix a été fait.
Et alors, quel est le bilan de ce questionnaire ?
Alors, au niveau peut-être de la troisième circonscription, peut-être ce sera plus intéressant. On a eu 8 réponses. On a eu réponses en général de qualité, voire même de très grande qualité. Sinon, après, que dire ?
Peut-être préciser qui, dans cette circonscription-ci, tous les candidats de gauche ont répondu et on n'a pas eu de réponse. Par contre, donc, comme ça a été dit, ni de la candidate du MoDem, ni de la candidate Front National, ni non plus du candidat UMP, député sortant Hervé Mariton. Mais on a eu les réponses de Lutte Ouvrière, NPA et le rassemblement autour du NPA, le Front de Gauche, les Verts, Europe Écologie, les Verts, et le candidat du Parti Socialiste. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve au niveau de Drômois également. C'est un peu dommage, quoi, qu'on ait eu toute la gauche qui a répondu, sauf une candidate au niveau de Drômois, et l'inverse au niveau de la droite, c'est-à-dire aucun candidat de droite qui n'ait répondu, sauf un.
Sauf, évidemment, à Valence, donc le candidat UMP.
Oui, c'est ça, Patrick
Labonne,
qui nous a répondu. Donc ça, c'est dommage, parce qu'on aurait aimé, c'est bien pour comparer déjà ceux qui ont répondu, mais c'est un petit peu caricatural, c'est un petit peu dommage que... Alors après, on expliquera tout à l'heure les raisons qui ont poussé Hervé Mariton à ne pas nous répondre. Je ne sais pas si pour les autres candidats c'était par désintérêt ou par où ils se disent bof, de toute façon les gens qui s'intéressent à ça ne voteront forcément pas pour moi, ou alors mes électeurs ne se décideront pas sur ce sujet-là, donc je vais pas m'embêter à passer du temps pour répondre à ces 12 questions-là. On n'a pas les explications de ceux qui ne nous ont pas répondu, malheureusement. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça quand même très dommage. Après, encore une fois, comme ça a été dit au début, c'est la toute première initiative. C'est la première fois qu'on pose des questions. C'est là, on est tout nouveau aussi dans le paysage, dans le département. Donc bon, c'est déjà un bon résultat. C'est déjà bien que tous les résultats de gauche nous aient répondu. Et on aurait pu avoir même pas ça. Mais bon, j'espère que là, pour la prochaine fois, on les incitera plus à nous répondre. Et bon, ce premier exercice y aura contribué, je pense.
Et donc, vous êtes représentant d'un collectif, je crois.
Donc, effectivement, donc, cette initiative, c'est les Amis de la Terre qui... Donc, les 12 questions pour 2012, c'est une initiative des Amis de la Terre, mais qui regroupe plusieurs organisations.
Les Amis de la Terre, c'est quoi ?
Alors, les Amis de la Terre, je vais laisser à Yann parce que c'est vraiment le spécialiste.
Oui, les Amis de la Terre, c'est une association, tout ce qui est plus traditionnel, loi 1901, de défense de l'homme et de l'environnement, non pas seulement de l'environnement. Il est très important d'inclure la dimension sociale et la dimension démocratique, c'est-à-dire voilà, que toutes les populations aient leur mot à dire à ce qui leur arrive. Donc, c'est un petit peu plus évident. Ici et encore, comme on va le voir avec les gaz de schiste tout à l'heure, que dans d'autres parties du monde. Et en gros, la seule chose qu'il y a à comprendre, c'est que le mode de fonctionnement va vraiment du bas vers le haut, c'est-à-dire que c'est structuré autour de groupes locaux. Donc typiquement, nous, là, le groupe local qui est en train de se constituer dans la Drôme, les Amis de la Terre Drôme, c'est généralement au niveau du département. Il y en a une trentaine à peu près en France. Et ensuite, ça remonte, donc c'est-à-dire que c'est le modèle fédération, en fait, le modèle fédératif. Donc il y a la Fédération des Amis de la Terre France avec une trentaine de groupes locaux. Et ensuite, Amis de la Terre Europe, et puis Amis de la Terre International. Au niveau international, c'est à peu près un peu plus de 70 pays, 2 millions de membres sur les 5 continents, plusieurs milliers de groupes locaux un petit peu partout, c'est toujours un peu partout le même modèle. Et donc c'est ça le point commun qui se regroupe partout dans cette fédération, c'est vraiment ces questions de justice environnementale, justice sociale, justice économique. C'est vraiment que le droit des communautés à décider de ce qui leur arrive, à décider de leur mode de vie, de leur destin, et ne rien se faire imposer de l'extérieur, comme malheureusement c'est le cas, d'où les luttes. Et donc il y a énormément de luttes un peu partout, dont on parlera, dont je reparlerai tout à l'heure, qui a lieu. Mais c'est vraiment ça là, le cœur et l'historique de l'association. L'association a 40 ans pour la France au niveau international, c'est démarré dans 4 pays il y a 40 ans. Il y a eu des hauts et des bas pour la France, et donc voilà, nous on est contents d'être les premiers ici. Il n'y avait jamais eu de groupe dans la Drôme, c'est la première fois. Certains départements, il y avait eu des groupes, c'était redescendu, là ça a redémarré, comme au Vaucluse par exemple. Nous on est c'est tout nouveau, donc voilà, une petite dizaine qui démarreront cette aventure, on verra où tout cela nous mène.
C'est un mouvement né avec cette histoire du gaz de schiste là, qui a eu lieu il y a deux... C'était en automne 2010.
Alors, pas exactement en tant que tel, c'est-à-dire que moi, en fait, j'étais, avant de déménager ici, j'étais salarié des Amis de la Terre. Après, j'ai un parcours un peu spécial, j'étais salarié. Il y a une petite dizaine de salariés sur différentes campagnes. À Paris, j'étais sur la campagne finance, dont je reparlerai tout à l'heure. Et du coup, je connaissais très bien l'association de l'intérieur. Et donc, quand je suis arrivé ici, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un groupe local. Il y en avait déjà un peu partout en Rhône-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Loire, Rhône, mais pas ici. Donc je me suis dit, ce serait pas mal. Et effectivement, par contre, le tout premier événement que je me suis dit qu'il serait bien de faire, c'est tombé juste effectivement au moment des gaz de schiste. Et c'est effectivement le tout premier événement qui a eu lieu, entre guillemets, Amis de la Terre. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était de passage ici, provenance du Québec, où il était à fond sur le sujet. Ça touchait le village où il habitait depuis un an, et il était de passage dans les parages. Du coup, hop, je lui ai sauté dessus, et on a fait une petite soirée de présentation de l'expérience québécoise de la lutte contre les gaz de schiste au Québec, en février, l'an dernier, qui a débouché sur la création du collectif non aux gaz de schiste Val-de-Drôme, donc dans le Val-de-Drôme. Et puis, accessoirement, après, par connaissance, etc., quelques personnes qui ont aussi rejoint le groupe local en tant que tel Ami de la Drôme.
Quelles sont les réponses aux questions qui vous ont été renvoyées ?
Donc, je ne sais pas si on va se limiter au...
On va peut-être se limiter aux deux candidats restants.
Aux deux candidats restants, ce sera peut-être plus intéressant.
C'est-à-dire M. Mariton, le député sortant, et M. Rasclar,
voilà.
Représentant du Parti Socialiste.
Donc, on va peut-être commencer par M. Rasclar, ça sera un tout petit peu plus court peut-être. Donc, il nous a répondu assez tardivement, puisqu'il nous a répondu la semaine dernière, mais sa réponse est quand même une réponse étudiée, argumentée, avec un vrai projet environnemental.
Est-ce que c'est une réponse rédigée par lui-même ou c'est par l'appareil
du parti ?
Alors,
c'est une réponse très largement inspirée par la politique nationale. Il cite à très très nombreuses reprises François Hollande. C'est une des réserves justement que nous avons à l'égard de cette réponse. On a plusieurs autres réserves. Une des premières qui n'est pas la moindre, c'est concernant le nucléaire. Puisque concernant le nucléaire, il est exactement sur la ligne de François Hollande, c'est-à-dire on ferme Fessenheim et par la suite on verra si on peut fermer d'autres centrales. Enfin, en gros, il est vraiment très, très timoré dans la lutte contre les excès du nucléaire, on va dire. Ça, c'est la première réserve concernant véritablement ses propositions. La deuxième réserve, qui me tient particulièrement à cœur, c'est concernant les gaz de schiste. Puisque je vais le citer, ça sera beaucoup plus clair. On lui a posé la question, donc, quelle sera votre position, finalement, hein, la question est beaucoup plus longue, mais elle peut être résumée ainsi. Et sa réponse, donc je le cite exactement, c'est « En l'état actuel des choses, je m'oppose formellement à l'exploitation des huiles et gaz de schiste. » Alors, d'un premier abord, pour le profond, j'ai envie de dire, on pourrait être satisfait d'une telle réponse. Cela dit, elle comporte plusieurs limites et des limites importantes. Dans le sens où la loi prévoit une possibilité d'exploration, sachant que l'exploration des huiles et gaz de schiste ne peut se faire que par fracturation hydraulique dans l'état actuel de nos connaissances.
Je crois que c'est autorisé dans le domaine expérimental. Hein,
alors
ou,
c'est exactement
ou de
recherche. Oui, à des fins scientifiques. Alors, loin de nous l'idée de nous opposer au progrès de la science. Cela dit, du moment qu'on a fait une fracturation hydraulique, cela veut dire que l'impact sur l'environnement est irréversible. Donc, s'opposer simplement à l'exploitation des huiles et gaz de schiste, c'est une position un peu limitée et très dangereuse. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est concernant le code minier, puisque l'exploration des huiles et gaz de schiste, étant donné que le code minier a été réformé il y a à peu près un an, je me tourne vers Yann.
Ouais, il y a certains morceaux qui sont toujours en train d'être réformés. Il ne me semble pas que ça soit terminé.
Voilà, et toujours en faveur d'ailleurs des gaziers.
C'était réformé par l'initiative de qui, ce code ?
Bah, alors, à ma connaissance, dernière nouvelle, ils ont lancé un processus, parce que c'est un truc qu'ils n'ont pas ouvert depuis, ça remonte à, je ne sais plus, Napoléon, ou, enfin, très 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 longtemps. Qui n'est plus du tout adapté à l'heure actuelle. Et donc, il y a eu une telle bronca, évidemment, autour des gaz de schiste et une telle montée aux barricades qu'ils se sont sentis un petit peu obligés quand même, effectivement, de réouvrir le texte. Et je ne connais pas les détails du processus pour revisiter tout ça. Mais de mémoire, il me semblait que ça va de toute façon... prendre du temps de mémoire. Je me souviens pas avoir vu passer les messages qui disaient ça y est, c'est adopté, terminé. Alors, il y a évidemment les industriels qui sont derrière et qui vont observer et qui vont certainement tenir le stylo de la rédaction, de la re-rédaction d'une partie du code minier en allant dans le sens qui les arrange, évidemment. Mais ça va de quoi qu'il arrive, je pense que ça prendra du temps.
On peut dire que pour le moins, le contexte est très flou, l'actualité est très floue, et on sent que les menaces sont très, très, très importantes. Alors peut-être qu'il serait intéressant justement que je cite nos amis ardéchois qui tiennent une gazette, la gazette numéro 3. Donc je vous le lis également dans le texte. Donc tout ce que nous avions prédit est arrivé, une fausse loi, pour nous endormir. Pour preuve, les forages dans l'Ain qui n'attendent plus que la signature du préfet. Pire, la première fracturation « scientifique » entre guillemets, autorisée par décret aura lieu en fin d'année, très certainement en région parisienne. À la lecture de ce texte, effectivement, on s'aperçoit que l'actualité est quand même, des gaz de schiste est quand même très brûlante et on joue constamment avec les subtilités du langage, les subtilités du code minier. Donc là, je pense que vous allez comprendre rapidement quelle est notre position par rapport à la réponse d'Hervé Rasclard concernant l'exploitation et l'exploration des huiles et gaz de schiste. Donc, un petit rappel, l'exploitation, en gros, on fore, on ramasse tout ce qu'il y a, tout ça c'est légal. L'exploration, c'est différent. L'exploration, on pourrait penser qu'on fore, s'il y a quelque chose, tant mieux, s'il n'y a rien, tant pis. Enfin, en tout cas, on ne vendrait pas le produit issu de cette exploration, puisque ça ne serait finalement que des expériences scientifiques. Or, avec la réforme du code minier de l'année dernière, il faut savoir qu'un permis d'exploration, c'est un permis de 5 ans, renouvelable 2 fois, donc autrement dit 15 ans. 15 ans de possibilité de forage. Durant ces 15 ans, le gazier peut vendre l'intégralité de ce qu'il sort du sous-sol. Sachant, si vous rajoutez juste un petit détail, sachant qu'un puits, en général, peut être exploité entre 10 et 15 ans, et que par la suite, le sous-sol est totalement vide d'huile ou de gaz de schiste, vous comprenez parfaitement en fait, que l'exploration et l'exploitation, c'est exactement la même chose, compte tenu de la réforme du code minier. Donc, quand Hervé Rasclard affirme, donc en l'état actuel des choses, je le recite, en l'état actuel des choses, je m'oppose formellement à l'exploitation des huiles et gaz de schiste, la faille est qu'il ne s'oppose pas à l'exploration des huiles et gaz de schiste. Et donc, finalement, compte tenu de l'état actuel de la législation, il ne s'oppose pas également à l'exploitation. J'espère que j'étais assez clair parce que c'est quand même des subtilités de langage.
Mais disons que c'est une réponse qui prête à chacun à se documenter et à faire ses propres recherches sur la question. Voilà. Et quelles sont les autres questions alors ?
Alors concernant les autres questions, on a une position, donc je le répète, assez tiède concernant le nucléaire. Je rappelle simplement que François Hollande veut réduire la part du nucléaire dans notre production énergétique pour atteindre 50% à l'horizon 2025. Pour nous, c'est nettement inférieur aux besoins, étant donné que si on prend par exemple le scénario négawatt, donc le scénario négawatt, peut-être qu'il serait bon aussi de le rappeler. Le scénario négawatt, c'est un collectif de spécialistes de l'énergie qui travaillent ensemble pour pouvoir proposer des scénarios d'avenir dans le domaine de l'énergie. C'est orienté de façon à ce que le nucléaire soit progressivement abandonné. C'est orienté également de façon à ce que l'on puisse lutter contre les gaz à effet de serre. C'est orienté également de façon à ce que la France puisse rester compétitive sur les marchés mondiaux. Donc c'est une vision, c'est un projet réaliste. C'est un projet également qui est basé sur trois bases. Donc l'efficacité énergétique. Autrement,
la sobriété d'abord.
Ouais, alors
la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables en dernier.
Voilà, donc en fait, pour que les auditeurs comprennent bien, la sobriété, moi je prends une image, c'est toujours l'image de la lumière en fait. La sobriété, ça veut dire qu'on ne va pas gaspiller justement de l'électricité en éclairant le parking de telle ou telle grande surface à 3h du matin. Donc ça, c'est sobriété. Là, on peut économiser énormément d'énergie. Le deuxième point, donc tu disais, c'est l'efficacité. Autrement dit, c'est concernant notre éclairage, utiliser donc des ampoules à basse consommation. Alors je sais qu'on peut se poser des questions relatives au recyclage, etc. Mais cet exemple a des limites, mais je pense qu'elle a l'intérêt de parler franchement. Et le troisième point, donc, c'est les énergies renouvelables. C'est autrement dit, je ne vais donc pas éclairer mes parkings à 3h du matin. Je vais allumer une ampoule à basse consommation et non pas une ampoule du type halogène, très consommatrice, très gourmande en électricité. Et donc le troisième point, cette ampoule basse consommation, je vais l'alimenter avec de l'énergie renouvelable. Donc là, on a des gisements très très importants, hein, tant dans l'éolien que la marée motrice, que le solaire, que la biomasse, enfin, il y a une multitude de possibilités.
Et avec ce qui se passe à Fukushima, on peut même ajouter que ce qui n'était pas pris en compte dans le scénario Négawatt, on pourrait certainement aller beaucoup plus vite pour la sortie du nucléaire que ce qui est indiqué dans le scénario Négawatt. C'est une sortie en 20 ans, mais là on a vu, bon, malheureusement c'est évidemment pas des circonstances qu'on peut se souhaiter, bien entendu. N'empêche que sous la contrainte obligatoire, le Japon est sorti du nucléaire en 14 mois, hein, tout simplement. Zéro réacteur à l'heure où on se parle, plus de nucléaire, plus rien dans le pays. Et pourtant, quand on voit les reportages et les documentaires à la télé de ce qui se passe à Tokyo, bon, ils ne sont pas en train de ramper dans les rues, hein, à ma connaissance. Donc, bon, il y a forcément évidemment eu des conséquences. Ils sont obligés d'importer plus d'énergie fossile et ça, il va falloir évidemment le corriger. Mais ils ont surtout réussi aussi à faire justement la sobriété et efficacité énergétique. Voilà, ils n'ont pas l'air d'être particulièrement malheureux de ça. Ils ont eu des, quand on regarde les chiffres, 10, 15, 20, avec des pointes à 40% d'efficacité énergétique. Ils ont atteint en 14 mois les objectifs que nous, on essaye piteusement d'atteindre d'ici 2020 en Europe. Donc voilà, on peut se dire que éviter une catastrophe nucléaire en France, ça vaut peut-être l'effort, qui n'était même pas un effort, c'est juste des nouvelles habitudes à prendre et tout un appareil productif à réorienter et d'aller dans cette direction-là. Donc ça peut très certainement aller encore plus vite que les 20 ans de Négawatt avec l'expérience malheureuse de Fukushima.
Et donc à ce propos, on a eu une très agréable surprise, c'est de lire donc Hervé Rasclar qui nous affirme donc que les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, donc là vous avez revu, vous retrouvez automatiquement le scénario Négawatt, donc tout ceci sont les orientations qui nous conduiront à structurer le mix énergétique de la France de demain. Nous on a envie de lui dire chiche, on attend, on va voir, si c'est le cas on vous soutient, sinon on sera là pour vous rappeler vos engagements.
Chiche notamment, juste un tout petit point, sur les 50%, l'objectif, ce qui est très intéressant et qui ne vient pas pareil à l'esprit quand on lit la phrase, c'est 50% de quoi ? Si c'est 50% de l'augmentation tendancielle de l'énergie, c'est-à-dire on continue comme d'habitude, tout le monde s'en fout, on est toujours à consommer plus d'énergie et on continue, ça fait beaucoup, même 50% dans 2025, ça fait toujours beaucoup de centrales, et ça fait toujours, voilà. Si on applique dès demain, pour de vrai, l'efficacité et la sobriété, la demande va forcément automatiquement chuter, voilà, isolation des logements, enfin tout ce qu'on sait qu'il faut faire pour ces deux aspects-là. Et donc la demande en énergie en 2025 sera bien moindre. Donc 50% de cette demande bien inférieure en 2025, là, ça commence à devenir intéressant. On parle de dizaines de réacteurs nucléaires en moins. Donc tout est 50%. C'est un peu un chiffre comme ça en l'air. Ça ne veut rien dire. C'est 50% de quoi ?
Voilà, donc peut-être pour faire un bilan concernant la réponse d'Hervé Rasclar. Donc moi, j'ai envie de dire bien, mais peut mieux faire. Peut mieux faire donc au niveau du nucléaire. Peut mieux faire au niveau des gaz et huiles de schiste. Cela dit, il y a quand même des orientations qui nous plaisent, mais on reste quand même très 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 vigilant. Le deuxième candidat donc présent au deuxième tour dans la troisième circonscription d'Ormoz, c'est-à-dire celle qui nous intéresse, la nôtre. Donc ce deuxième candidat, c'est Hervé Mariton. Alors Hervé Mariton, on l'a recontacté 4 fois. Il ne nous a strictement jamais répondu, donc on s'est autorisé hier, donc lundi 11 juin, on s'est autorisé à lui rendre visite lors d'un meeting débat. On pouvait poser des questions, donc on s'est installé dans la salle et on lui a demandé très simplement pourquoi vous n'avez pas répondu donc aux 12 questions pour 2012, sachant que son collègue, on va dire, de l'UMP, donc à la première circonscription d'Ormoz, Valence, avait répondu et que son concurrent, donc Hervé Rasclar, avait également répondu. Visiblement, cette question, donc pourquoi il n'avait pas répondu, l'a un petit peu déstabilisé. Alors, sa réponse est articulée en trois temps. Le premier temps, ça a été de botter en touche, tout simplement, et d'affirmer qu'aucun mandat n'oblige, autrement dit, ce n'est pas parce qu'il est député qu'il est obligé de répondre aux questions environnementales, même si, alors c'est moi qui rajoute ça, même si ce sont quand même des questions qui engagent l'avenir de tous. Ça, c'est la première réponse. Vous en jugerez comme bon vous semble. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça très satisfaisant ni même très courageux. La deuxième réponse, ça a été un sursaut de la part d'Hervé Mariton. Je ne sais pas si c'était un sursaut d'orgueil, si ça a été une volonté de provoquer, je ne sais pas. Enfin, il s'est adressé à nous en nous demandant, il nous a dit chiche, posez vos questions. Alors ça ne nous a pas beaucoup plu non plus, puisqu'on a pris quand même le temps de rédiger ces questions. On a pris beaucoup de temps à rédiger ces questions. Les autres candidats qui ont répondu ont répondu avec soin, ont passé également beaucoup de temps. Ce sont des questions qui touchent plusieurs domaines, de nombreux domaines d'ailleurs dont on ne peut pas du tout faire l'économie. Hein. L'avenir de l'agriculture, par exemple, dans la troisième circonscription, c'est quand même une question fondamentale. Et Hervé Mariton nous répondait donc très légèrement ainsi, c'est-à-dire posez-moi la question, les questions, allez-y, je suis prêt, chicha, je vous attends.
Tout de suite maintenant.
Alors bon, on est rentré dans le jeu, hein, ma foi, en lui précisant effectivement qu'on ne répond pas à des questions qui engagent l'avenir, on ne répond pas à ces questions-là à la légère. Et on lui a posé la question donc, notamment des déchets. Alors pourquoi la question des déchets? Tout simplement parce que c'était la plus simple à résumer. Parce que les questions sont quand même assez longues, donc il fallait résumer. Alors la réponse d'Hervé Mariton sur les déchets a été une réponse assez rapide, qui s'est appuyée essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur l'expérience crétoise. On n'a pas eu la possibilité de lui rappeler que la troisième circonscription ne s'arrêtait pas aux limites de la commune de Cré. Ça, donc, ça a été son... Donc, je vous ai dit que sa réponse était en trois mouvements. Donc, premier mouvement, ça a été beauté en touche. La deuxième mouvement, ça a été finalement nous dire chiche, posez vos questions. De toute façon, j'y répondrai. Je ne sais pas comment il pourrait répondre sérieusement donc, à des questions aussi importantes. Sauf, évidemment, s'il les prend à la légère. Le troisième mouvement, ça a été finalement de préciser qu'il ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Donc... Nous, on veut bien que les députés ne soient pas des spécialistes dans tous les domaines. Simplement, on aimerait rappeler à Hervé Mariton donc, qu'il est rapporteur du budget des transports et de l'eau à la Commission des finances et que deux questions portent spécifiquement sur les transports et sur l'eau. Donc, nous avions affaire à un spécialiste qui, visiblement, n'a pas voulu répondre à ces questions. On peut avoir plusieurs hypothèses, on ne va peut-être pas s'étendre sur le sujet. Enfin, en tout cas, c'est quand même très très décevant de voir que l'on est obligé d'aller à la rencontre, au contact du candidat, pour savoir effectivement pourquoi il n'a pas répondu à ces questions, alors que, je le rappelle, Hervé Mariton a été député 3 fois, donc ça veut dire 15 ans de mandat, qu'il est pour la 6e fois consécutive présent aux élections législatives dans la troisième circonscription drômoise, et que s'il est réélu, ça sera la 4e fois, le 4e mandat. Bon, je pense que quand on est quelqu'un qui a un tel ancrage local et national, même si, comme il nous l'a rappelé, aucun mandat n'oblige, la moindre des choses, c'est quand même au moins de répondre par un accusé de réception, une petite réponse police, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et on ne se serait sûrement pas déplacé. J'en veux pour preuve tous les autres candidats qui ne nous ont pas répondu, mais qui ont fait un accusé de réception, et c'est tout à fait respectable.
Je vais revenir aux deux candidats restants pour le deuxième tour. Je trouve, à mon avis, puis lors des entretiens que nous avons eus ici au studio pour leur présentation, le discours de ces deux personnes, l'écologie est légèrement abordée, mais il n'y a pas beaucoup d'engagement à ce niveau-là, je trouve.
Vous voulez dire par rapport à quel candidat? Donc Hervé
Mariton et Monsieur Mariton, oui.
Effectivement, donc Hervé Mariton, c'est l'absence totale de discours pro-environnemental. Pour Hervé Rasclar, encore une fois, on a quand même des réserves importantes concernant le nucléaire et le gaz de schiste. Petit détail aussi, c'est qu'il nous a répondu la semaine dernière alors que nous l'avons contacté déjà au mois de mars. Donc ça aussi, est-ce qu'il attendait de voir est-ce que les autres candidats de la circonscription allaient répondre ou pas?
Nous avons eu le même cas de figure, ça a été la dernière personne à passer dans les studios.
Il s'est sûrement senti obligé d'ailleurs de répondre d'une façon très argumentée. Dans le sens où on a une chance, une grande chance dans la troisième circonscription, puisqu'on a eu plusieurs réponses vraiment, Je pense notamment à l'alliance d'extrême gauche. Je pense notamment à la réponse du Front de gauche et à Europe Écologie des Verts. Ces trois mouvements nous ont gratifié de trois réponses vraiment de très très grande qualité. Donc Hervé Rascard a dû se sentir obligé de répondre et de répondre à la hauteur, de se montrer à la hauteur finalement de ses autres concurrents, même si ses autres concurrents sont également à gauche.
Et alors, suite au résultat du premier tour, peut-être une certaine déception, non, par rapport à cette idée de l'environnement et qui est en fait légèrement mise de côté. Ce n'est pas une priorité pour les deux candidats qui viennent, en tout cas.
Tout à fait. Alors, on n'a pas lâché le morceau puisque on a été voir Hervé Mariton. On a fait la même chose hein, pour les. On n'a pas été les voir, mais on a aussi demandé aux autres candidats qui sont au deuxième tour dans les autres circonscriptions de nous répondre. Qu'il leur restait une semaine pour nous répondre. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais on ne perd pas espoir. On va continuer de les harceler jusqu'au bout. Après, oui, non, effectivement, sur la question de l'environnement sur notre circonscription au deuxième tour. Il n'y a pas beaucoup de... C'est clairement pas... On le voit dans les professions de foi, c'est vraiment pas mis en valeur, c'est pas mis en avant, c'est pas la première chose. Il y a le nucléaire qui les divise un peu, et quand même gaz de schiste, parce qu'on a toujours la même fausse réponse d'Hervé Mariton depuis des mois sur le sujet. Mais encore une fois, sur le nucléaire, on voit que c'est quand même une position assez tiède. Enfin, il faut dire aussi que la position est tellement... radical dans l'autre sens, un pro-nucléaire sans aucun frein et à fond, que du coup, par différence, ça fait quand même une position tiède et quand même bien différente que de l'autre radical dans l'autre sens. Mais c'est sûr qu'en termes de débat, en termes de prise de conscience, en termes de d'enjeux, ça paraît assez clair qu'aucun des... Aucun des candidats n'a pris la pleine mesure de ce qui est nécessaire à faire. J'ai vu le débat qu'il y a eu justement entre les deux candidats sur France 3 il y a quelques jours, là, il y a deux semaines, je pense, quelques semaines, pendant trois quarts d'heure. Alors après, je ne sais pas qui avait choisi les sujets non plus, mais à part une phrase à la fin justement sur cette question du nucléaire, aucune question sur l'environnement, sur toutes les problématiques qu'on a abordées dans notre questionnaire. Ça n'est pas du tout intervenu dans les trois quarts d'heure de débat.
C'est à se demander si l'environnement aurait été abordé si nous n'avions pas posé ces 12 questions.
Et je me demande même si c'est du fait d'habiter dans la Drôme, qui est quand même une région bien préservée, je trouve. Alors, d'où, justement, peut-être que l'intérêt pour l'environnement, pour ces candidats, n'est pas une priorité, puisqu'on y vit bien.
Exactement. Mais alors, là, on est dans les faux-semblants. Hein. On est dans les faux-semblants, puisque notre département est déjà bien dégradé, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi, je rappelle régulièrement qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on avait une petite fringale à 11h30 le matin, on pouvait prendre sa canne à pêche et aller taquiner le gardon dans le Rhône et se faire une petite friture à midi. Je rappelle que c'est interdit à présent pour des causes environnementales. Hein, tout simplement, c'est trop pollué. Notre département est également traversé par, alors je vais peut-être pas faire le compte de tout, je vais sûrement en oublier, mais par une des plus importantes autoroutes européennes, par une ligne TGV, par une ligne de fret et de passagers.
Qui sont situées dans la vallée du Rhône.
Notre département est également très très proche, voire abrite des centrales nucléaires, donc.
Bah oui, la menace nucléaire est imminente et permanente, donc c'est sûr qu'on peut pas la voir, elle est pas perceptible immédiatement. Enfin, on a vu ce qui s'est passé lors de la journée de l'accident à Marcoule en septembre dernier. Bon, les rumeurs vont vite. Il n'a pas fallu longtemps. Heureusement qu'on a rapidement su que c'était pas très très grave, parce qu'à mon avis, je pense que la panique peut se répandre extrêmement rapidement. Donc ça, c'est difficile à percevoir, au toucher concrètement, mais ça peut se matérialiser malheureusement extrêmement rapidement.
Je rappelle, moi, à mon avis, que des incidents, il y en a pratiquement un au moins par semaine.
Oui, après,
et plus.
Tout à fait. Celui-là avait entraîné la mort d'homme, donc c'est ça la différence. Et du coup, il y a eu énormément de médias, de médiatisation autour de cela. Des incidents, mais absolument, il y en a toutes les semaines. Mmh. Les petits, je lisais à un moment donné, des petites dépêches de rien du tout là, qui se retrouvent dans page 4-5 du Dauphiné. Là, si on les additionne et qu'on fait la collection, effectivement, il y en a absolument toutes les semaines. Une autre menace aussi qui est... On a beau être dans la région la plus bio, surtout ici la vallée de la Drôme et encore plus le Diois de France, il reste plus de 80% de toutes les cultures qui ne sont pas bio et donc dans lesquelles sont répandus des produits chimiques, des pesticides, etc. Donc ça, il y a aussi l'impact sur les agriculteurs, sur la santé, donc il y a aussi ça à ne pas oublier.
C'est quel type d'agriculture justement là qui utilise...
Alors, arboriculture et viticulture justement sont les deux types de cultures les plus gourmandes en pesticides et de très très loin. Donc notre région et notre département est largement servi à ce niveau-là. Notre but, vous le comprenez, n'est pas d'effrayer, mais d'alerter. Donc effectivement, moi je ne suis pas originaire de cette région, je suis tombé amoureux de la Drôme, c'est un pays magnifique. Mais c'est un pays qui est aussi touché par diverses pollutions et qui est menacé par notamment le gaz de schiste. Alors peut-être un petit rappel encore une fois de l'actualité des gaz de schiste. 4 permis sont en cours d'instruction. Si l'on considère ces 4 permis sur le périmètre du département, ben ça veut dire que toute la Drôme, strictement toute la Drôme, est concernée. Et la lutte ne fait que commencer. Il faut savoir que si on commence à forer, que ce soit pour des raisons donc, de pseudo-exploration ou de vraie exploitation, dans tous les cas, de toute façon, tous les impacts environnementaux, alors il serait peut-être intéressant de faire une émission spécifiquement sur les impacts environnementaux et les enjeux des gaz et huiles de schiste, mais du moment qu'on perfore, de toute façon, c'est terminé. Le beau paysage est détruit, la qualité de l'eau, il faudra l'oublier. Il faudra oublier également la qualité de notre agriculture. Il faudra oublier également l'industrie touristique. Il faudra oublier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Par rapport aux questions, est-ce que vous avez de l'espoir pour le futur au niveau de ce que vous avez eu comme réponse? Et est-ce que ça va pouvoir enclencher une espèce de fédération politique ou de groupe ou de mouvement dans ce sens?
Alors notre position est très claire, nous sommes effectivement, c'est une démarche politique, hein, une politique au sens étymologique du terme, hein, la ville de la cité, mais ce n'est pas une démarche partisane. Le seul parti que nous défendons finalement, c'est le parti de l'environnement, c'est le parti de l'avenir, hein. Est-ce que ça peut fédérer des forces? Ben, nous l'espérons. Nous espérons aussi que ça pourra être une façon d'avoir compulsé les engagements des différents candidats. Et ces candidats ne vont pas s'envoler dans la nature, si vous me permettez l'expression. Donc du coup, on va pouvoir les recontacter régulièrement, de façon à ce qu'ils appuient peut-être telle ou telle lutte, ou du moins qu'ils prennent part à tel ou tel débat.
Ça permettra également, ce qui sera très intéressant, on ne sait pas exactement, on va faire un bilan de l'initiative quand ça sera tout terminé, pour voir ce qu'on fera lors de prochaines élections, mais quelle que soit la forme, on réinterpellera forcément d'une façon ou d'une autre les candidats dans d'autres élections à venir. Ce qui sera intéressant, je trouve, c'est qu'on va pouvoir voir, là ça dénote, on n'a pas de point de référence, donc ça va être un petit peu notre point de référence pour voir l'évolution justement de la pensée. Alors bon, là on a posé la question aux candidats, mais il y en a certains qui se sont regroupés les 4 ensemble du même parti pour faire une réponse commune. Donc il y a quand même avec les individualités, on voit quand même un peu les approches des différents partis. Et on va pouvoir voir justement l'évolution, s'il y a une évolution et quelle évolution des partis ou des individus dans les prochaines années. Moi, je dénoterai en mini-bilan un indéniable début de prise de conscience. Alors, il y en a qui ne sont pas du tout au même niveau, il y en a qui sont déjà assez loin, d'autres qui démarrent seulement le chemin. Mais bon, voilà, c'est déjà un début. Et ce qui va être intéressant surtout, c'est de voir quelle évolution il va y avoir et la rapidité aussi de cette évolution, parce qu'on est aussi, il y a dans beaucoup de domaines où on sent que ça démarre, que ça frémit, mais malheureusement, la nature des enjeux nous oblige à aller vite, à aller rapidement et de ne pas attendre 20 ans avant d'appliquer les solutions réelles à tous ces problèmes, quoi.
Alors peut-être pour répondre à cette question, également rappeler que 8 organisations donc, ont participé à cette initiative. Donc je vais les rappeler, peut-être intéressant. Donc les Amis de la Terre, bien évidemment, les Amis de la Terre Drôme. Le collectif Non Gaz de Schiste Val de Drôme, Sortir du Nucléaire Drôme Ardèche, les Brasseurs de Cage, Solidaire 0726, la Frapna Drôme, la LPO Drôme et La République. Alors, j'ai toujours en tête votre question, donc, à l'avenir, justement, ces organisations ont pris contact entre elles. On avait déjà pris contact, bien évidemment, mais peut-être qu'on travaillera davantage ensemble, dans un même but, hein, même but, donc protéger un petit peu tout ce qui nous reste de si beau et de si cher dans notre département.
Est-ce que tu voudrais parler justement de ce sujet-là qui te tient à cœur, d'aborder ne serait-ce que quelques minutes, présenter tout ce qui pourrait être une émission?
Oui, tout à fait. Donc le sujet, c'est ce qui n'est pas, alors ça dépend comment on peut l'appeler, le terme technique qui n'est pas forcément très vendeur, c'est la financiarisation de la nature. Peut-être le slogan « La nature n'est pas à vendre » est un peu plus simple à comprendre. C'est tout ce qui se trame autour de Rio, Rio plus 20. Là, on n'en entend pas énormément parler pour l'instant, mais ça va arriver sur nos ondes et sur nos écrans comme un boulet de canon dans les deux prochaines semaines, même la semaine prochaine. Oui, c'est déjà la semaine prochaine. C'est 20 ans après le sommet de Rio sur l'environnement de 1992, et 10 ans après celui de Johannesburg, une nouvelle rencontre internationale de chefs d'État et de gouvernement autour de la question de l'environnement. Et malheureusement, ce qui s'y prépare et ce qui va probablement s'y décider ne va pas du tout dans le bon sens, et c'est ce qu'on veut dénoncer avec cette nouvelle campagne qui vient tout juste d'être lancée, alors cette fois-ci au niveau national et même international, hein, c'est les Amis de la Terre France et international qui lancent cette campagne ensemble, et donc c'est pour dénoncer le fait que ce qui va être entériné probablement malheureusement à Rio, c'est au lieu de réduire et de résoudre les problèmes environnementaux à la source, c'est-à-dire notamment de remettre en cause nos modes de vie et nos modes de développement dans les sociétés occidentales où on sait très bien qu'on consomme trop de tout, hein, tout simplement, et qu'il faudrait absolument réduire. On revient sur la sobriété, l'efficacité, etc., dans tous les domaines. Au lieu de promouvoir et de faire en sorte que ces solutions soient mises en place enfin sérieusement pour de vrai un petit peu partout, eh bien non, on ne remet pas en cause ça et on trouve tous les moyens possibles et imaginables pour faire autre chose que ça, et en l'occurrence on est en train de créer de nouveaux marchés, de confier la gestion de tous ces problèmes au marché. Alors, un premier marché qui vient le plus à l'esprit, qui existe déjà aujourd'hui, c'est le marché du carbone. Mais il y en a plein d'autres qui se préparent, qui sont là dans les starting blocks, le marché de la biodiversité, le marché de l'eau, etc., etc. Et donc, c'est effectivement une énorme préoccupation pour nous, parce qu'on voit les premières conséquences très concrètes du marché du carbone qui existe déjà, et ça va totalement à l'opposé de ce qu'on veut. C'est les financiers qui s'emparent progressivement de la nature et du vivant, et qui ont des impacts directs sur les communautés. Il y a tous les mécanismes de compensation qui permettent de dire aux industriels européens, on a pris tel engagement, mais si on n'est pas assez bon pour réduire nos émissions, on va en acheter en faisant des projets dans les pays du Sud qui soi-disant réduisent les émissions et qui du coup débarquent dans peuvent aller jusqu'à sanctuariser des morceaux de forêt dans les pays du Sud et qui débarquent comme ça. Ah, salut, on est des industries du Nord, on pollue trop, alors on a besoin de votre forêt à vous pour compenser notre pollution ici dans le Nord. Et vous partez, hein, parce que vous n'êtes pas dans le programme, c'est pas fait pour. Donc merci, au revoir, ne venez pas déranger notre beau projet, nos belles installations. Il y a des exemples absolument dramatiques en Indonésie notamment, où c'est carrément l'armée qui débarque. Il y a des millions, hein, c'est des enjeux financiers colossaux dont on parle. Et donc l'armée qui débarque et qui vire les populations villageoises, les communautés locales de leur territoire, tout simplement parce que voilà, le territoire va être mis sous cloche. Réserve de patouche, ça c'est cet arbre, c'est une réserve de carbone, et donc c'est pour compenser les émissions et les excès du Nord. Ils ont acheté les droits à polluer de ces projets dans les pays du Sud. Donc ça, c'est le cauchemar absolu pour nous. C'est encore une fois le même modèle qui se perpétue. Hein. On a le concept aux Amis de la Terre d'espace écologique. L'espace écologique, l'espace avec toujours une limite inférieure et une limite supérieure. Limite inférieure pour assurer les besoins fondamentaux, limite supérieure au-delà de laquelle on prend forcément l'espace du voisin, l'espace de quelqu'un d'autre. Là, c'est un exemple malheureusement parfait, ici dans les sociétés occidentales et l'oligarchie en général. Hein, il y a aussi les riches des pays du Sud, hein, qui ont le même mode de vie, hein, également, qui très clairement prennent l'espace écologique des autres, et ça se ressent, ces communautés-là le ressentent. Pareil en Amazonie, hein, je citais l'Indonésie. L'Amazonie, c'est pareil, hein, pour avoir tous les les cultures de soja qui permettent de nourrir notre bétail, et ben voilà, ça, les populations, les Brésiliens remontent dans la forêt amazonienne et vont déranger les dernières populations qui n'ont rien demandé à personne dans la forêt amazonienne, qui elles vivent très bien depuis des siècles sans qu'il se soit rien passé. Et grâce à cause de notre mode de vie, on va les y déplacer et les y déranger. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Donc voilà, c'est pour dénoncer tout ce concept-là, dénoncer ce qui va se décider, ce qui se tracte à Rio, qu'on veut des vraies solutions à la source des problèmes et non pas l'économie verte telle qu'on nous la propose, c'est-à-dire cette économie de gestion des problèmes par le marché, par les mécanismes de marché qui sont inefficaces et qui permettent toujours d'enrichir les mêmes et sans résoudre les problèmes.
Très bien. Je pense que ça va être la fin de l'émission. 50 minutes, c'est la durée. Je vais inviter les auditeurs à aller sur le site internet de Radio Diwa, sur la page justement de cette émission, et vous y trouverez certainement les liens internet pour vous documenter ou avoir plus d'éclaircissements. Quelque chose à rajouter encore?
Voilà, peut-être une petite annonce d'une organisation participant donc aux 12 questions pour 2012. Une petite annonce donc du collectif Non au gaz de schiste Val-de-Drôme. Donc, un rassemblement festif contre le gaz de schiste aura lieu à Aurel. Donc, Aurel, c'est entre Cré et Die, le 1er juillet de 14h à 19h. Alors, vous aurez des forums, vous aurez des concerts, des animations pour les enfants, une buvette, des produits locaux, des stands d'assaut. Et entre autres participants, nous aurons donc les Bretons de l'Est, Frisette, Faranum, Compagnie Double 1, Jacques Girard, Ripitiki, les Hormones des Croissances, Archigeux, et j'en oublie.
Ce sera seulement de 14h à 19h.
Ça sera donc effectivement, on sera obligé de boucler l'affaire à 19h. Ça sera donc, je le répète, donc à Aurel, le dimanche 1er juillet, de 14h à 19h.
Donc une sortie familiale.
Sortie familiale.
D'accord.
Et festive. Restons
D'accord.
mobilisés.
Bon, très bien. Eh bien, Christophe Cérès et Yann Nouvel, merci d'être venus.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.